livre, Pierre de Cour, psychiatre à la clinique Stella Vérargues et membre de la Société psychanalytique de Paris, qui va nous faire une présentation intitulée « L'identité entre unité et diversité ».
De quoi parle-t-on ? Au sujet de l'identité, l'équivocité est absolument vertigineuse puisqu'il y a 27 occurrences différentes signalées par Thomas d'Aquin pour définir l'identité. Rassurez-vous, ce n'est pas de ces 27 occurrences dont je vais vous parler, mais de quelque chose qui n'est pas plus simple pour autant, puisque je vais essayer d'aborder la question de l'identité du point de vue psychanalytique. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on parle d'identité, on peut l'aborder de deux façons, soit du point de vue d'une sorte d'ontogénèse du sujet, soit du point de vue de l'influence du milieu culturel sur le développement de la personne. Ça serait très intéressant qu'on puisse aborder aussi ce deuxième point, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais c'est vrai que les travaux des anthropologues sont extrêmement précieux, dans la mesure où ils montrent qu'en particulier en Amazonie, la notion d'identité est tout à fait relative, puisqu'elle est fonction du milieu culturel environnant. Ce que je veux dire par là, c'est que l'identité est donnée par le regard du groupe, et qu'elle se construit à partir de l'appartenance d'un sujet à un groupe. Ainsi, le clan du guépard, le clan du tapir peuvent définir l'appartenance de quelqu'un à une identité, le clan du guépard étant défini, bien entendu, par les qualités de guetteur et de chasseur de l'animal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'identité est une chose relative et que le milieu culturel environnant a une très grande importance. Et vous avez tous l'expérience de ces populations de l'immigration qui sont déstructurées par une sorte de rupture avec leur milieu culturel environnant. Et les conséquences que l'on voit tous les jours, c'est-à-dire le repli identitaire, en particulier sur des positions religieuses plus ou moins extrémistes. Donc voilà pour poser le problème. De mon point de vue, l'identité se situe donc à l'interface de ces deux approches. Je me contenterai donc d'aborder avec vous la première approche, c'est-à-dire l'aspect ontogénétique du problème. C'est là où les difficultés commencent, puisque finalement je suis chargé de parler de l'identité du point de vue psychanalytique, et heureusement ou malheureusement, mais ça n'est pas hasard, dans la théorie freudienne, il n'y a pas de chapitre ni de livre consacré à la question identitaire. Et en bon psychanalyste, je me suis demandé pourquoi, et autrement dit, c'est précisément l'absence de référence à cette question-là qui m'a fait réfléchir. Cette absence a sa logique. À cela, à mon avis, il y a trois raisons à cela. La première, c'est que finalement, l'identité appartient essentiellement au registre de la psychologie. Et vous connaissez les réticences de Freud à l'égard de la psychologie, auxquelles il reproche son caractère dogmatique, son caractère pseudo-scientifique, et une façon tout à fait particulière qu'ont les psychologues aussi d'éviter la plupart du temps toute la référence à la sexualité et à l'inconscient. C'est une des premières raisons. La deuxième raison pour laquelle la question de l'identité aussi soulève en lui une certaine méfiance, c'est son rapport avec les philosophes, qui a toujours été extrêmement ambigu, et qui fait qu'il s'est démarqué précisément du fait que la notion d'inconscient n'avait pas sa place dans la philosophie classique. Il s'est démarqué donc de la philosophie, et à partir de là, il a construit un système de pensée que je vais simplement très rapidement décrire, puisque les seules références à l'identité qu'il fait, c'est dans le fonctionnement inconscient, en particulier à propos de l'identité de perception et l'identité de pensée. Je ne vais pas le développer, ça nous amènerait trop loin. Donc les raisons de cette absence de référence précise à l'identité ont une troisième raison, vous avez bien compris, c'est une façon pour lui de décrire son propre modèle de fonctionnement psychique auquel tout à l'heure Claude Smadja a fait référence. Et il y a en effet une grande différence entre ce que les psychanalystes appellent l'identité et ce que les philosophes appellent l'identité. Il y a un véritable changement de paradigme, une véritable rupture épistémologique, puisque ce que Freud introduit à ce sujet, au sujet de la construction de la personnalité, au sujet de la construction du moi, c'est, vous l'avez deviné, c'est la question de la sexualité. Et il y a tout un champ de son travail qui vise à essayer de montrer comment se développe la notion d'identité et comment se construit la personnalité, auquel il préfère donner une acception systémique beaucoup plus générale sous le terme de moi. Eh bien, c'est l'investissement répétitif de certaines zones érogènes qui va permettre à l'enfant de trouver un certain plaisir exploratoire dans les différentes parties de son corps. Cette activité d'investissement est d'abord fragmentée, parcellaire, pour, au bout d'un moment, bénéficier sous l'impulsion de ce qu'il appelle une nouvelle action psychique, d'une forme de synthèse, de regroupement, qui permet la construction du narcissisme. Ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Il y a un acteur tout à fait déterminant dans cette opération, c'est bien sûr le regard de la mère, regard qui fonctionne comme un miroir et qui, par les jeux de regard qu'elle renvoie et par la nomination aussi, permet à l'enfant de se structurer de manière significative et de manière adaptée. C'est une première étape que je résume à l'extrême, vous l'entendez bien pour des raisons de temps. Il y en a une deuxième qui est tout aussi importante, c'est la question de la séparation. Parce que dans ce premier temps que j'évoque, vous imaginez qu'il y a une fusion entre l'enfant et sa mère et qu'il y a une non-séparation qui constitue évidemment une forme d'aliénation possible. Cette deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de la séparation, et ce temps particulier que Winnicott a décrit de façon assez magistrale, en montrant qu'il s'institue, il se construit un espace dit potentiel, transitionnel, entre la mère et son enfant, qui permet à l'enfant, quoi donc, eh bien, d'arriver à se structurer de manière définie, de manière personnelle, dans cette expérience de la séparation. Et cette étape, cette expérience de la séparation est tout à fait déterminante dans la construction de la personnalité. Donc vous voyez, première étape, le jeu des investissements libidinaux, le plaisir de la découverte, la synthèse de cette activité-là induite par le regard de la mère et l'expérience de séparation qui permet, comme le dit Winnicott, à l'enfant de jouer seul sous le regard de sa mère. Voilà comment les choses se passent de façon vraiment très schématique. Deux mots pour dire quand même comment Freud se dégage de la philosophie et comment la philosophie a été aussi très... La psychanalyse a beaucoup inspiré les philosophes. Je ne peux pas refaire ici tout le parcours des philosophes concernant la question de l'identité, mais je voudrais simplement dire qu'il y a deux éléments tout à fait concordants qu'on retrouve dans... chez tous les auteurs, chez tous les philosophes, j'en citerai quelques-uns, qui finalement résument la question identitaire à la question de la conscience. Le plus proche de nous, c'est Descartes, qui, avec son cogito, évidemment, résume l'intégrité du fonctionnement psychique à la question de la pensée. On sait très bien que les choses sont autrement plus compliquées et qu'il y a d'autres systèmes au sein de notre vie psychique qui complexifient beaucoup la synthèse de Descartes. Pour Husserl, c'est la question de la mémoire. La mémoire de soi constitue pour lui un élément structurant de l'identité. Pour Heidegger, c'est le rapport à soi-même, la fidélité à la parole donnée. Je voudrais faire un petit développement concernant ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire l'influence de la psychanalyse sur deux philosophes majeurs qui ont beaucoup influencé la pensée contemporaine. Je pense à Ricoeur et à Derrida, qui ont ceci de commun... Peu de choses au fond, mais ceci de commun, c'est l'intérêt pour le langage. Et pour Ricoeur, l'identité, ça n'est pas autre chose que ce que le sujet raconte. Je suis ce que je raconte. Autrement dit, l'identité se structure autour de l'énonciation et de ce que le sujet est capable de raconter. Voilà pour lui ce qu'est l'identité. Et c'est cette possibilité, je vais le citer, qui nous donne l'existence d'un noyau, facteur de permanence ou de continuité, qui, comme un fil conducteur, permet la reconnaissance de soi-même par autrui et assure de ce fait même une même-té avec soi-même. C'est ça pour Ricoeur, au fond, l'identité, c'est cette même-té avec soi-même qui fait que, quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les transformations qui sont les nôtres, il y a quelque chose d'un fil rouge qui permet, au fond, de nous reconnaître. Ce n'est pas très différent de ce que dit Derrida, c'est pour ça que j'ai rapproché ces deux auteurs de façon un peu artificielle, mais Derrida dit à peu près la même chose, je vais le citer. Il dit que la mémoire de soi intègre le perpétuel changement, ce que j'indiquais, c'est-à-dire une mobilisation, une fluidité constante qui nous anime, qui réfléchit, dit-il, les progrès de la ruine sur le visage, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui fait qu'un enfant de 3 ans se reconnaîtra au même titre qu'une personne de 90 ans qui ne sera pas dépersonnalisée. Il y a la certitude qu'il s'agit bien de la même personne malgré le temps et les effets du temps sur son visage. Et il insiste en disant que la continuité, c'est cette mémoire de soi qui, quand on parle sans se voir, dirige notre propos et les mouvements de notre corps, assurant ainsi notre sentiment d'appartenance. Et j'ajouterai aussi, c'est ce qui garantit notre différence et notre individualité. Donc, on voit bien que la détermination freudienne s'est largement dégagée de cette conception finalement assez réductrice qui fait que l'identité n'est ni un problème de conscience, ni se résume à l'affaire du langage, mais est tout autre chose. Alors, je crois qu'il faut, revenir un peu sur l'importance de la libido. Je le ferai à partir de deux exemples cliniques et à partir de la question de la séparation. Et c'est intéressant de constater que finalement, s'il y a une évacuation de la théorie psychanalytique du thème de l'identité, la pratique psychanalytique a permis, a induit finalement un retour de cette question de manière tout à fait particulière, sous la forme précisément de la prise en charge de patients très spécifiques dont il a été question. Je veux parler des états limites. Donc je vais dire deux mots de ce que sont les états limites du point de vue psychanalytique. Ensuite, je vous raconterai un rêve de séance où une séance d'analyse où, au fond, la question d'identité est tout à fait centrale. Je vous expliquerai comment on peut comprendre ce fonctionnement-là à partir d'une cure, à partir d'un rêve en particulier. Pour un psychanalyste, les états limites, ça n'est quoi ? Ça n'est pas autre chose que la conséquence d'un dysfonctionnement du rapport du sujet avec son objet primaire, c'est-à-dire avec la mère en l'occurrence. Dysfonctionnement qui est marqué par deux occurrences, soit l'excès, soit le pas assez, soit la carence. L'excès d'excitation d'une mère lorsqu'elle est dans des soins absolument inadaptés à la garde de son enfant peut créer des excitations qui ont un caractère traumatique et qui vont avoir comme conséquence une mauvaise organisation de la vie psychique du sujet et un rapport à son corps qui est perçu à ce moment-là comme étant la source soit d'une excitation dangereuse, soit quelque chose qui, au contraire, nourrit des satisfactions de nature beaucoup plus masochique. Je pense à un cas en particulier. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'excès, c'est-à-dire on est du côté du traumatisme, du côté du trop et du défaut d'intégration de l'excitation induite par le geste du soin maternel par exemple. Et l'autre modalité qui joue son rôle dans la structuration des états limites, c'est la question de la carence, c'est la question du défaut. Autrement dit, on est confronté à des mères qui sont parfois tout à fait indifférentes et qui ne prennent pas la mesure des besoins psychologiques et physiologiques de leur enfant et qui sont dans des positions de neutralité tout à fait inadaptées et qui consacrent ainsi quelque chose du développement de l'enfant qui est marqué par une sorte de faille narcissique, par quelque chose qui se caractérise par des assises tout à fait fragiles qui, bien entendu, ne vont se manifester après que lors de la rencontre d'événements traumatiques qui réactivent ces blessures originaires. C'est la situation de ces enfants dépressifs, c'est probablement la situation de ces enfants anorexiques précoces, c'est la situation de bien des modalités d'expression de la pathologie. Donc l'état limite, de mon point de vue en tous les cas, il s'organise autour de ces deux possibilités psychopathologiques et ces manifestations sont innombrables, c'est-à-dire que ça passe depuis des troubles de l'identité, bien entendu, c'est-à-dire qu'avec un défaut de structuration du moi, des modalités particulières de traitement de cette faillite. Et je pense en particulier aux expériences addictives, qui ont ceci de particulier, c'est que, comme le pharmacon grec, elles ont à la fois une vertu thérapeutique et une vertu destructrice. La vertu thérapeutique, c'est qu'elles animent l'intériorité du sujet, qui, en ayant recours à des produits toxiques, a le sentiment de lutter contre le vide interne, a le sentiment d'exister momentanément. Mais c'est extrêmement important, ce qui permet de comprendre pourquoi, au fond, il n'y a de cesse dans cette perspective-là que de répéter avec la consommation de produits, ces sentiments d'existence, même s'ils ont un côté tout à fait éphémère, peu durable, et qu'ils ont bien entendu cette modalité particulière de destruction. Donc voilà une des modalités d'expression de la souffrance de l'état limite. Il y en a un tas d'autres, en particulier ce à quoi faisait référence Claude Smadger aussi tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la carence du préconscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un défaut de mise en représentation des émotions, des affects et des pensées. Et se substitue à cette carence quelque chose qui est de l'ordre de l'agir, quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'acte, quelque chose qui fait que ces patients ne peuvent exister que dans la transgression, ne peuvent exister qu'en se mettant eux-mêmes en situation difficile pour avoir, au bout du compte, la certitude d'avoir éprouvé un moment de plaisir, un moment de jouissance qui les a, un moment en tous les cas, relativement animés. Voilà ce que sont les états limites pour les psychanalystes, c'est-à-dire qu'ils sont la concrétisation même de la complexité de ce que sont les troubles de l'identité. Et il faudrait rajouter, si vous voulez, pour être un peu plus précis quand même, que c'est les travaux en particulier de Jean Bergeret qui ont montré qu'en arrière-plan, et pour les raisons que j'évoquais du point de vue psychopathologique, le fond dépressif est tout à fait essentiel et tout à fait majeur chez ces patients-là. Je vous disais que la question d'identité avait fait retour de manière tout à fait singulière dans le champ de la psychanalyse par l'intermédiaire des états limites. Et je voulais vous citer un exemple qui n'est pas un exemple donc, qui fait partie de ma clinique, mais qui consacre au fond la question de l'identité sexuelle des états limites. C'est un matériel que j'ai recueilli auprès d'une collègue dans un congrès il n'y a pas très longtemps, qui est assez caricatural et assez drôle. La patiente dit à son analyste « Je suis une fille parce que j'ai un pénis ». Consternation de l'analyste, c'était une thérapie en face à face, qui a dû probablement nourrir chez la collègue une réaction émotive particulière et qui énerve la patiente en question et qui dit « Mais vous voyez pas que je suis une zigoufille ». Donc on voit bien que finalement cette espèce d'indifférenciation qui ne permettait pas à cette patiente d'intégrer les composantes de sa sexualité révèle le caractère coextensif des troubles de la sexualité à l'identité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que la non-intégration de la bisexualité est une des manifestations des troubles identitaires, en particulier chez ces états limites-là. J'en viens à ce qui est peut-être plus difficile pour moi d'évoquer, puisqu'il s'agit d'un cas d'analyse, bien entendu. Et donc on est toujours impliqué, quand on s'expose comme ça à raconter un rêve, à des risques de lapsus, je prends le risque. Hein. C'est une patiente qui amène un rêve assez classique, un rêve oedipien assez classique, qui assez classiquement aussi se déroule en deux temps, et avec un temps associatif qui permet de réinterroger la dimension profonde du rêve. Elle est à son travail. Son directeur la prend par le cou, elle rougit, elle est très gênée vis-à-vis de ses collègues. En bon analyste, je vous l'ai déjà dit, j'ai évidemment compris ce premier temps du rêve comme étant un rêve de transfert. Je me suis senti dans la situation du directeur, évidemment. Ça n'a pas raté. Le deuxième temps du rêve, où elle exprime son désir de séduction de façon manifeste, amène un autre versant du rêve, c'est-à-dire le versant surmoïque, le versant répressif, où elle dit « La police vient chez moi et me demande de fournir mes papiers d'identité. » Et j'intègre ça comme étant évidemment la manifestation de la répression à l'égard du désir exprimé. Ça se complique un peu puisque, au fond, toujours dans le rêve, elle est prise de panique et elle fouille dans son sac, qui est une véritable pagaille, comme c'est l'être un sac de femme, généralement. Et donc, elle ne trouve pas ses papiers d'identité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je vivais, moi, cette espèce de pagaille dans le sac, puisque contre-transférentiellement, qu'est-ce qui se passait? J'étais moi-même en train de décrocher, c'est-à-dire je ne savais plus très bien quelles étaient ces associations les mêmes. Et j'étais pris dans ce mouvement un peu de confusion qui indiquait finalement, de façon assez intéressante, combien j'étais moi-même pris dans quelque chose qui faisait que mon identité d'analyste était en train de se modifier, puisque je décrochais, finalement. Et donc, le rêve s'arrête là, et elle associe ce qui va redonner une autre configuration très intéressante au rêve, puisqu'elle dit que, associativement, elle a appris que la fille d'un ami de son mari... qu'un ami de son mari venait de décéder et que cet homme-là avait une petite fille. Le mari de ma patiente propose d'adopter cette petite fille-là, ce qui ne sera pas possible puisqu'elle avait une sœur plus grande qui l'adopte. Et ce qu'elle apprend, c'est que finalement, cette sœur qui a adopté la petite l'a martyrisée de façon extrêmement, extrêmement sérieuse. Et elle en vient associativement toujours à parler de ses propres maltraitances, comment elle-même avait maltraité sa propre sœur, et comment cette maltraitance qu'elle faisait vivre à sa sœur n'était que la manifestation d'une sorte de punition qu'elle infligeait à cette fille, en répression à l'attitude que la mère avait avec elle. C'est-à-dire, elle avait cette attitude également très martyrisante, dans une compréhension oedipienne du matériel, on pouvait comprendre que tout ceci s'articulait de manière assez précise, Et la perte d'identité, la perte des papiers d'identité n'était que la manifestation d'une stratégie défensive pour, en n'ayant plus d'identité elle-même, elle faisait l'économie de toute la répression à l'égard de ce désir à la fois oedipien et à la fois de tuer sa mère. Voilà comment les choses se sont problématisées dans un rêve qui montre que, de toute façon, même s'il n'y a pas une théorisation précise de la question de l'identité dans la métapsychologie, on est confronté en permanence, doublement dans cet exemple-là, puisque elle a perdu ses pas d'identité, et moi-même, je vous le disais à un moment, j'étais dans une sorte de flottement un peu confus, comme je viens de l'être d'ailleurs en vous racontant cette histoire. Combien de temps je dispose là ? 5 ? Oui. Ben, si on a le temps, je parlerai peut-être tout à l'heure dans la discussion de la question de la mythologie de Narcisse et de Don Juan qui pose d'une autre façon la question de l'identité. Donc je vais conclure avec ce souci, quand on veut être un bon conférencier, c'est d'être toujours consensuel, mettre tout le monde d'accord, comme ça évidemment il n'y a pas de discussion et on repart content. Alors, c'est assez difficile sur ce thème-là, même si, au fond, il y a une part de consensualité possible entre tous les auteurs qui se sont intéressés à la question de l'identité. Je pense à Nietzsche, qui dit « Deviens ce que tu es ». Je pense à Prochiance, du Collège de France, qui, je le cite, dit que « Chaque individu est non seulement unique, mais à chaque instant différent de ce qu'il sera dans l'instant qui suit ». À l'inverse d'une machine, il s'inscrit dans la durée d'une histoire. Bref, il n'est jamais défini parfaitement en tant qu'objet permanent. Ce que vous voyez là, au fond, c'est que la définition de l'identité est une définition asymptotique, c'est-à-dire une définition qui fait que l'identité est quelque chose qui est en travail, qui est en mouvement et qui est supposé être l'objet, ce qu'a dit ce matin Philippe Julien d'ailleurs, hein, quelque chose qui est de l'ordre d'un processus en cours. Et Freud est assez consensuel de ce point de vue-là jusqu'à un certain point, puisque sa fameuse formule « Wo es war, so ich werde », c'est-à-dire « là où ça a été, je dois advenir », il y a quelque chose là qui montre bien qu'il y a une consensualité qui montre que l'identité est un processus en devenir. Mais il y a évidemment autre chose dans la dimension métapsychologique qui réfléchit à la question de l'identité, c'est quelque chose qui est irréductible. Parce que, pour les psychanalystes, la question de l'identité se construit dans le conflit. Et ce conflit est d'une force telle qu'il est le produit, ou qu'il engendre, ce travail d'individuation, ce travail de séparation. Et finalement, je reprendrai la phrase de Philippe Julien, qu'il a écrit dans un bouquin qui s'appelle « Procès et création », pour dire que, c'est une assez belle définition du transfert, qu'au fond, l'identité est un processus interactif, sans fin et transformateur, je dirais, par le jeu des identifications qu'il induit. Et on pourrait dire qu'au fond, notre identité est dans un équilibre aléatoire, parfois fragile, toujours incertain face au risque de régression et de dissociation. Et je conclurai par, je vais commencer par Thomas d'Aquin, je conclurai en citant Saint-Augustin. À propos de l'identité, il dit, et j'en resterai là, « Je deviens un problème pour moi-même ». C'est à cette question que j'essayais de vous inviter à réfléchir.